troisième temps de notre série consacrée à l'histoire de la France et des États-Unis. Aujourd'hui, la place de la France dans l'indépendance américaine. Après avoir évoqué lundi les différences entre notions de tolérance à l'américaine et à la française avec l'historien et politiste Denis Lacorne, puis hier, écoutez le documentaire riche en archives de Victor Massé, de l'Épinay, de Séverine Cassard, un documentaire consacré à la présence et au départ, il y a 50 ans, c'était en 1966, du commandement armé de l'OTAN en France, et en particulier dans la région parisienne. Nous allons ce matin partir pour Versailles, où se tient jusqu'à la fin de la semaine une riche exposition consacrée au rôle de Louis XVI et de son gouvernement dans l'indépendance des États-Unis. Nous cheminerons donc avec Victor Massé de l'Épinay de la Fabrique de l'Histoire et avec Valérie Bajou et Lucien Belli entre portraits de pères de l'indépendance, représentations de batailles, représentations de grands hommes comme Benjamin Franklin ou George Washington et traité d'amitié entre la France et les États-Unis. Nous voici donc avec Victor Massé de l'Épinay de la Fabrique de l'Histoire qui a préparé toute cette semaine avec nous. Nous voici donc dans l'exposition sur Versailles et l'indépendance américaine qui se tient jusqu'au 2 octobre à Versailles, donc dans le château de Versailles, en compagnie de Valérie Bajou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la conservatrice et c'est vous qui avez mis en place cette exposition sur Versailles et l'indépendance américaine, et également de Lucien Belli, professeur à Paris-Sorbonne Paris 4. Bonjour.
Bonjour.
Spécialiste en particulier des 17e et 18e siècles, et vous avez contribué au catalogue de cette exposition. Peut-être commençons avec vous, Lucien Belli, sur le contexte qui permettra de comprendre pourquoi la France et donc parfois des Français sont allés combattre pour l'indépendance américaine. C'est une question qui intrigue souvent les Américains eux-mêmes, mais qui peut trouver des réponses assez simples au bout du compte dans le contexte international de l'époque, Lucien Belli.
Il est certain que la France était dans une situation très complexe depuis la guerre de 7 ans, où elle avait perdu le Canada, et l'idée d'une revanche éventuelle, d'une restauration, quelque sorte de la puissance française, était présente dans le gouvernement et parcourait aussi la France et les Français. Donc on peut dire que la révolte ou la volonté d'indépendance des 13 colonies américaines a été une occasion d'intervenir contre l'Angleterre.
Et donc, un contexte particulier dans le domaine des relations internationales, dont vous êtes un spécialiste, Lucien Belli, mais aussi dans le domaine du royaume du jeune roi Louis XVI. Il vient tout juste d'arriver au pouvoir lorsque ses velléités d'indépendance se déclenchent de l'autre côté de l'Atlantique. Et il va prendre une position, une posture, pourrait-on dire, originale, intéressante. Il ne considère pas que ça soit une affaire mineure, cette affaire-là, Lucien Belli.
Alors, je pense que si on regarde de très près, l'idée qu'un jour les Américains pourraient se révolter contre la métropole britannique est une idée qui intéressait la diplomatie française depuis très longtemps. Alors, sans doute depuis le début du XVIIIe siècle, en tout cas au temps de Choiseul, on pensait qu'un jour ce lien serait coupé. Donc, pour Louis XVI, progressivement, l'idée s'est imposée que c'était une bonne affaire. Mais il faut faire très attention. Le début du règne est plutôt un temps de réforme où l'on cherche à améliorer la vie des Français. C'est le temps de Turgot. Et l'idée de recommencer une guerre après une autre qui avait été terrible, très longue, très coûteuse, c'était pas une décision facile. Donc, il a fallu, en même temps, négocier avec le roi. Vous voyez, le roi lui-même, en plus, n'était pas très favorable à un soutien vis-à-vis de révoltés. C'est un roi absolu. On lui raconte qu'il y a des gens qui veulent se débarrasser de leur roi. C'est un homme très moral. Il ne trouve pas ça très drôle. Hein, il ne trouve pas ça normal. Donc, il y a eu aussi, vous le voyez, un effort pour que Louis XVI intègre cette idée. Alors, c'est pas nouveau, hein. La France a soutenu des tas de révoltés au cours de son histoire. C'est pas du tout nouveau. Mais pour Louis XVI, c'était pas une chose c'était pas une chose évidente. Et d'une certaine manière, là, il y a eu deux hommes qui ont beaucoup compté et qui sont présents ici. C'est d'abord Beaumarchais, l'auteur du Barbier de Séville, qui a été envoyé pour d'autres affaires en Angleterre et qui a pris contact avec des correspondants américains et lui-même a écrit des lettres, des mémoires à Louis XVI où il trouvait des arguments pour lui dire que c'était une bonne idée, que bien sûr les Anglais nous traitaient d'esclaves, mais que nous étions aussi, les Français étaient des hommes de la liberté et qu'on pouvait finalement peut-être regarder du côté de l'Amérique. Et c'est Beaumarchais qui exprime peut-être avec le plus de force l'idée que cette rupture entre les 13 colonies américaines et la métropole sera un événement majeur dans l'histoire du monde et qu'il faut de toute manière prendre position. Et ça, c'est fort. Et l'autre homme, bien sûr, qui joue un rôle essentiel, c'est le ministre des Affaires étrangères, Vergennes. Vergennes qui est donc un homme très posé, plutôt conservateur, hein, même un peu réactionnaire. Donc c'est pas, il n'intervient pas au nom de la liberté, ni au nom des grands principes. Il intervient au nom de l'équilibre européen. Il y voit une occasion d'affaiblir l'Angleterre, de changer l'ordre des choses et de permettre à la France de reprendre en quelque sorte sa situation de leader européen.
Il y a une troisième position dans les positions françaises vis-à-vis de cette révolte américaine, c'est celle de Lafayette, qui lui est dans un enthousiasme pour ces insurgents, comme on les appelle, les insurgents. Lafayette qui part très jeune, Louis XVI va le regarder là-bas, bien se garder de le soutenir trop ouvertement au début. Lafayette, c'est l'enthousiasme pour la nation américaine naissante.
Alors on peut dire que Lafayette est l'héritier d'un mouvement que l'on connaît bien et que l'on connaît mal, qui est ce que l'on appelait souvent le secret du roi Louis XV. C'est-à-dire que Louis XV avait créé une sorte d'agence de renseignement qui était destinée à mener une autre politique que la politique officielle, une double politique. Et beaucoup des hommes qui sont intervenus dans l'affaire américaine étaient des hommes qui avait préparé, en quelque sorte, cette revanche française. Alors, lui, Lafayette, c'est un jeune homme, riche, il est très jeune, il a beaucoup d'énergie, il est marié à ce qu'il y a de plus grand en France, il a épousé une Noaille, il est parent de tous les membres de la cour, et puis brusquement il se prend de passion pour cette cause américaine dans laquelle il voit finalement la défense de la liberté, le triomphe des lumières sur l'obscurité. Il est franc-maçon, comme Washington l'est, comme Franklin l'est, donc il y a certainement une idéologie commune pour faire avancer les choses, pourrait-on dire. Et il va incarner en quelque sorte cette aide de la France et de la jeune noblesse française à l'égard de la cause américaine.
Valérie Bajou, tout ce que vient de nous dire, en l'occurrence Lucien Belli, c'est propre à être dans un livre d'histoire. Mais évidemment, entre faire un livre d'histoire et faire une exposition, ça n'est pas la même chose. Surtout dans un contexte où peut-être les souvenirs de l'indépendance américaine sont plus présents évidemment de l'autre côté de l'Atlantique, et donc il faut récupérer des tableaux, des œuvres qui fassent sens pour des visiteurs et qui expliquent cette histoire autrement que par des mots, mais aussi par des œuvres que nous voyons ici dans cette exposition à Versailles.
Vous avez raison, c'est la raison pour laquelle l'exposition commence surtout par des portraits de tous les protagonistes français et américains qui ont joué un rôle dans cette indépendance. Mon propos n'était pas de raconter l'indépendance en soi, mais de montrer l'implication de la France et surtout de Versailles, le cabinet et la cour, comme l'a rappelé Lucien Belli, dans cette nouvelle campagne. Je voudrais ajouter quelque chose sur l'implication de Louis XVI. Contrairement à ses ministres, il connaît l'anglais, il est parfaitement au courant de ce qui se passe par les gazettes anglaises
et hollandaises
auxquelles il est abonné. Il lit tout ça, autant que Lafayette. D'ailleurs, Lafayette est au courant et nous avons exposé à Versailles la déclaration d'indépendance telle que le journal de Philadelphie le reproduit le 10 juillet et c'est l'exemplaire de Lafayette. Et je pense que Louis XVI a d'abord eu une attitude très attentiste qui n'est pas une attitude passive. Il a essayé de comprendre comment les événements allaient tourner et à quel moment, effectivement, il pouvait aider les Américains.
Oui, d'ailleurs, tout cela est difficile à montrer en exposition, mais c'est difficile aussi parce que il s'agit de diplomatie secrète, en l'occurrence, Lucien Belli, avant que, ouvertement, une année ou deux après la déclaration d'indépendance américaine, la France prenne parti ouvertement aux yeux des autres nations, aux yeux des autres pays, aux yeux des autres royaumes européens. Donc il y a cette dimension secrète qui est essentielle pour la compréhension de l'avancée de cette question de l'indépendance américaine vue de Versailles.
Oui, l'étonnant, c'est que toute une première partie de l'intervention française a été une aide secrète, organisée par Beaumarchais sous forme d'une société, Rodrigo Ordalès et compagnie. C'est-à-dire, l'idée, c'était de permettre aux Américains d'acheter des munitions, des uniformes, de se fournir en France en particulier. Et donc, l'idée s'impose en 76 qu'on peut aider les Américains. Et finalement, le traité d'amitié entre les deux nations ne sera qu'au début de 1778. Donc, il y a pendant de 1776 à 1778, donc il faut supposer toute une organisation. Et Beaumarchais, là, a joué un rôle d'entremetteur, mais aussi d'organisateur formidable. Hein. Imaginez une sorte de compagnie secrète qui aide 13 colonies à s'armer, à trouver les armes. Parce qu'il faut bien voir que les Américains étaient très faibles. Ils n'ont qu'une armée, des milices, en fait, une armée citoyenne, face à une armée de métier. Les Anglais sont des bons soldats. Ils n'ont pas de bateaux. C'est-à-dire que c'est quand même, ça s'étend sur un territoire immense. Il faut aller imaginer de Virginie en Caroline, de Caroline à New York. Tout ça est affreusement difficile. Et tout ça a été favorisé par cette aide secrète, doublée d'une aide aussi espagnole qui va se profiler peu à peu.
Est-ce que c'est ça peut-être qu'attendait Louis XVI pour signer ce traité? C'est un signe que cette victoire américaine est possible. On parle de la bataille de Saratoga,
dont l'annonce de la victoire arrive à Versailles en décembre. Hein, ça a mis quelques semaines. 1777. Et c'est à ce moment-là que Louis XVI se dit que peut-être les Américains pourraient négocier de leur côté avec les Anglais et qu'il vaut mieux négocier avec eux deux traités, en l'occurrence un traité de commerce et un traité militaire.
Alors on a justement ces traités du début de 1778 qui sont représentés ici, le traité d'amitié et de commerce, donc qui appartient aux archives du ministère des Affaires étrangères à La Courneuve, et une représentation figurée, un biscuit, je pense,
c'est presque
un biscuit.
Allégorique, c'est,
entre Louis XVI et Benjamin Franklin, donc qui se tendent l'un l'autre le traité d'amitié entre la France et ce nouvel État, pourrait-on dire, qui est en train de prendre son indépendance de l'Empire britannique.
Louis XVI appelle les anciennes colonies, les provinces unies d'Amérique septentrionale. Et donc ce traité de commerce, qui est un traité public, puisque le jour de la signature, la Cour de Londres est mise au courant, est un document assez exceptionnel. Comme tous les traités, il n'est pas signé par les rois, mais par les personnes habilitées à le signer. Donc à gauche, le ministre des Affaires étrangères, Vergennes, puis Benjamin Franklin, Arthur Lee et Silas Deane. Chaque personne ayant apposé sa signature et le cachet des armes. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que les Américains étaient venus avec un projet de traité de commerce et qu'ils ont argué du fait que ce n'étaient pas des diplomates professionnels, seul Arthur Lee l'était, pour avoir un traité bilingue, en anglais à gauche, en français dans la colonne de droite. C'est absolument exceptionnel. La langue diplomatique au XVIIIe est bien la langue française.
Victor Basset de l'Épinay.
Oui, vous évoquez à l'instant Silas Deane, Arthur Lee et Benjamin Franklin, dont on n'a pas dit grand-chose encore. On se trouve devant deux bustes de Franklin et un portrait. Et Franklin, avec cette allure si caractéristique, au milieu de tant de portraits de gens en perruqués, lui, il a les cheveux longs qui tombent sur les épaules, un habit presque grossier. Et cette figure de Franklin a été aussi très importante dans la cause américaine en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Lucien Belli?
C'est un choix merveilleux des Américains d'envoyer Franklin, qui arrive à la fin de 1776, parce que d'abord, c'est un homme connu. C'est un homme illustre, il est l'inventeur du paratonnerre. On va dire qu'il a, il a enlevé la foudre aux dieux et le sceptre aux tyrans. Donc c'est un homme qui fait partie du réseau des académies. C'est un homme respecté par ses découvertes. Imaginez ce qu'est l'électricité au XVIIIe siècle. Donc quelqu'un qui a maîtrisé l'électricité, ça paraît comme un homme exceptionnel. Et en même temps, c'est un intellectuel qui a des journaux, qui a écrit. Donc il est capable de tenir un discours politique. Et en même temps, c'est un choc de culture, parce que comme vous l'avez très bien dit, il n'est pas habillé comme un courtisan, il est habillé comme un bourgeois, il porte un chapeau de castor, il a les cheveux longs, c'est un peu le bon sauvage. Donc c'est aussi deux chocs de culture diplomatique, deux chocs de culture, mais aussi deux chocs de culture diplomatique. C'est-à-dire, il n'entre pas dans le moule des cabinets. Et ça va être... Les Américains vont jouer sur cet aspect-là. C'est une diplomatie nouvelle, une diplomatie sans cérémonial, une diplomatie sans secret. Franklin, quand on va lui dire, mais vous savez, vous avez des espions chez vous, votre secrétaire vous trahit, il dira, mais je n'ai rien à cacher, je suis un homme transparent. Et vous voyez, ça sera très fort dans la tradition diplomatique américaine jusqu'au XXe siècle. Hein. Oui. C'est une diplomatie différente. Une diplomatie honnête et franche. L'opinion française y sera très sensible. Ce sera beaucoup plus difficile pour Louis XVI et pour Vergennes, qui trouvaient qu'ils en avaient un peu soupé de ces Américains qui étaient très fins et très habiles, qui savaient utiliser l'opinion publique. Franklin est un manipulateur. Il sait utiliser les grandes dames des salons, il sait utiliser tout ce qu'il y a de plus aristocratique, et en même temps, il joue l'homme simple, l'homme
sans chichi.
Sans chichi, et ça marche.
Oui, là-dessus, c'est vraiment intéressant. Valérie Bajou, on avait eu il y a quelques années une grande exposition à Paris sur la figure de Franklin, comme pourrait-on dire la naissance d'une figure de la célébrité. On sait qu'en parallèle, il y a la figure de Voltaire et celle de Rousseau qui sont aussi reproduites ces figures sur des porcelaines, sur des vases, etc. C'est une figure qui va devenir une sorte de coqueluche des Parisiens.
Tout à fait. Et les deux bustes, l'un par Caffieri, l'autre par Houdon, montrent la rivalité entre deux sculpteurs au salon de 1777 et au salon de 1778. Quand celui de Houdon paraît au deuxième salon, il est évident que tout le monde s'écrie que cet homme a l'air vivant, alors que le buste de Caffieri est à dénigrer pour son réalisme, mais sans doute il est beaucoup plus fidèle. Quant au dessin de Carmontel, cet Italien qui est reçu en permanence au Palais Royal et qui représente les invités du Palais Royal lors des soirées, il n'a pas représenté seulement celui qui pourrait passer pour un bon sauvage, mais l'homme politique, car le papier qui sort du chapeau, du tricorne, est annoté « Constitution de Pennsylvanie ». Donc c'est vraiment l'homme politique qui est représenté.
Oui, et cela, évidemment, c'est intéressant, Lucien Belli, parce que faire entrer l'opinion publique à la veille de la Révolution française dans les décisions politiques françaises, c'est quelque chose de relativement neuf. On est habitué aux révoltes populaires d'un côté et aux stratégies de la cour de l'autre. Et là, d'un seul coup, il y a une troisième donnée, c'est comment des personnalités peuvent jouer de cette célébrité qu'ils acquièrent, soit par les lettres, soit par les sciences, pour pouvoir devenir des personnalités célèbres et peut-être influencer justement les décisions du roi et les décisions de la cour.
La nouveauté aussi, c'est que ces jeux diplomatiques deviennent l'objet d'imprimés, de discussions public. Or, la diplomatie, elle a besoin de secrets. Et on ne va pas préparer une guerre en le criant sur les toits. Donc, le jeu que les Américains ont joué a profondément transformé, en quelque sorte, ce dialogue entre les nations. Je vous ferai remarquer aussi sur la porcelaine où l'on voit Louis XVI offrant le traité à Benjamin Franklin. Il y a deux choses. Il y a indépendance de l'Amérique, ça c'est finalement le but politique, mais en dessous il y a liberté des mers, c'est-à-dire qu'en réalité l'une des motivations de cette guerre est très concrètement favoriser le commerce français. On ne fait pas une guerre si coûteuse, on n'intervient pas au bout du monde, parce que c'était le bout du monde l'Amérique, si il n'y a pas là derrière l'espoir d'une retombée importante. Et la retombée importante, c'est une retombée économique, c'est-à-dire que la France soit de nouveau présente en Amérique du Nord alors qu'elle en a été chassée par le traité de 1763.
Victor Massé de l'Épinay.
Et c'est justement sur les mers qu'une fois que la France s'engage aux côtés de l'Amérique, les plus grandes batailles vont s'engager d'abord à partir de 1778, et on va le voir dans la salle suivante, sur toutes les mers du monde, on peut dire, puisque la guerre, avec l'entrée en guerre de la France, devient une guerre mondiale. On va se battre dans l'océan Indien, on va se battre dans l'Atlantique Nord, on va se battre dans les Antilles, on va se battre dans la Manche, dans la mer du Nord, on va se battre un peu partout.
On va avancer justement en passant devant un tableau qui nous intéresse tout de même, parce qu'il est la preuve aussi d'une nouvelle attitude peut-être par rapport aux guerres. C'est l'engagement, Valérie Bajou, d'un volontaire dans cette guerre d'indépendance américaine.
Oui, la noblesse était volontaire, elle est partie à la guerre. Et en fait, ce tableau de ville représente un jeune homme qui reçoit l'épée de son père et qui prête serment devant le buste de Louis XVI au moment de ses adieux.
Il faut le décrire, ce tableau, des parterres de roses, des bassins de roses derrière, une statue d'ancêtre sous une sorte de tonnelle, et des tonalités qui sont assez proches de celles de Greuze, en l'occurrence.
Tout à fait, c'est un élève de Greuze. Voilà. Et il est intéressé par la peinture assez attendrissante. C'est une scène familiale, mais en même temps une scène politique, puisque le jeune homme est représenté devant le buste de Louis XVI. C'est une scène qui met en valeur la piété familiale et le patriotisme, une notion du XVIIIe siècle. Je pense que le père représente l'autorité familiale et il y a une transposition de ce qui est la nation à ce moment-là.
Lucien Belli. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on introduit ici le sentiment. Il y a un engagement sentimental pour la patrie, mais aussi pour la liberté du peuple américain. Or, si on veut bien regarder ces événements, la guerre, c'est essentiellement très loin, sur un autre continent. La France a été assez peu concernée par le conflit. Et c'est toute l'habileté du ministre Vergène qui a voulu et qui a réussi à éviter ce qui s'était passé dans la guerre précédente. La guerre de 7 ans avait été déplorable parce qu'il y avait eu un combat au Canada et un combat sur le continent français. La France était incapable de mener ça. Il a réussi à faire en sorte que le conflit avec l'Angleterre ne débouche pas sur un embrasement général de l'Europe où la France aurait été menacée directement. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de patrie, mais en réalité, on lutte pour une autre patrie qui est la nation américaine.
Oui, Valérie Bajou, tout de même, il faut s'assurer de soutien quand on s'engage dans une affaire comme celle-ci, et le soutien de la France, ça peut être par exemple ce pacte de famille avec les Bourbons espagnols, pour qu'au moins il y ait neutralité de ce côté-là, sinon soutien là aussi des Espagnols à cette cause nouvelle des Américains.
Tout à fait. Louis XVI a mis un règlement de marine sur la neutralité sur les mers qui proposait de ne plus attaquer les navires étrangers qui étaient des navires surtout de commerce. Et cette neutralité appréciée par les grandes puissances de l'Europe de l'Est a évidemment signifié la fin de l'hégémonie anglaise.
Sur ces mers.
Sur les mers.
Alors, Lucien Belli.
Vous l'avez évoqué, cette guerre est une guerre qui est d'abord une guerre maritime. Parce qu'il fallait assurer les liaisons entre l'Europe et l'Amérique. Ça s'est révélé extrêmement difficile. C'est là où on voit bien que c'est un long effort. Une guerre comme ça, c'est pas décidé brutalement. L'effort date de loin, vient de loin. C'est d'abord l'effort de Choiseul pour refaire une armée de terre. Et puis c'est l'effort au temps de Louis XVI de refaire une marine de guerre. Ça coûte très cher. Ça commence donc en 78 par une grande opération de l'amiral d'Estaing. Qui va durer 20 mois, mais qui ne sera pas un succès, mais qui mettra en place, disons, l'idée d'une collaboration entre les forces de terre et les forces de mer. L'idée qu'il faut couper, en quelque sorte, les liaisons anglaises. Vous voyez, progressivement, on invente une guerre qui est très complexe sur les côtes américaines. Et ça a duré 20 mois, et avec cette idée qu'il y a l'Amérique du Nord, mais il y a également les Antilles qu'il faut protéger, ou où il faut faire des conquêtes sur l'Angleterre. Donc, brusquement, on s'aperçoit que cette guerre américaine devient progressivement une guerre mondiale, et avec l'idée qu'il faut assurer des liaisons, que c'est compliqué, que les équipages, il faut leur assurer de la nourriture, il ne faut pas qu'ils tombent malades, il faut que les bateaux soient bien armés. Et ça, il y avait eu une longue préparation avec, en particulier, Sartine, un autre ministre et un autre inconnu de l'histoire qu'on a oublié, mais Sartine qui avait fait un grand effort pour justement que la France dispose d'une marine qui puisse, vous imaginez quand même ces allers-retours, enfin ces voyages vers l'Amérique, il fallait pouvoir le faire à cette époque-là.
D'autant en l'occurrence que les insurgés américains, Valérie Bajot, ne disposent pas eux-mêmes de marine, ils ont des navires de commerce, mais ils n'ont pas de navires de guerre.
Si l'on regarde le tableau des forces en présence qui est plus loin dans l'exposition, on s'aperçoit que la France avec l'Espagne et avec la Hollande qui rentre en guerre pour des raisons commerciales, arrive à avoir un nombre de bateaux équivalent avec les bateaux anglais. Plusieurs choses d'un point de vue militaire intéressent les Américains. D'abord, la qualité de la poudre française par rapport à la poudre anglaise qui est fabriquée d'une manière plus artisanale. Mais d'un autre côté, les bateaux anglais sont plus performants que les bateaux français, et petit à petit, au fur et à mesure de la guerre, les bateaux anglais sont doublés de cuivre, ce qui fait qu'il y aura de moins en moins d'incendies, contrairement aux bateaux français.
Alors vous nous parliez à l'instant même, Valérie Bajot, de ce tableau donc, qui appartient au ministère de la guerre, qui est dressé en 1782 avec les noms des corvettes, des cutters, des hoops, des flûtes, des brûlots, des chaloupes, des bombards, des brigantins, des yachts, des vaisseaux de ligne, des frégates. Et des deux côtés, on a ainsi la liste de ce dont chacun des belligérants dispose. On a la consolante, la clairvoyante, la danaé, la diligente, l'émeraude, la fée, la fine, la flora, ça c'est pour la marine française. Et en face, on a le Monmouth, le Ripples, le Ruby, le Samson, le Saint-Albany, etc., etc., qui sont des forces navales de l'Angleterre au 1er juin 1782, Valérie Bajot.
Alors, à gauche, les vaisseaux les plus importants en France sont les vaisseaux de ligne et le vaisseau type à 74 canons, tandis que le vaisseau de ligne anglais va à plus de 110 canons, 120 canons. Donc, à part le Ville de Paris qui en avait 110 côté français, il est évident que la force anglaise est beaucoup plus importante. On pourrait se contenter de regarder le bas de ce tableau. Voilà. Et là, on a exactement le nombre de vaisseaux, le nombre de canons de part et d'autre.
Lucien Belli.
Du côté de la France, 870 vaisseaux, 9934 canons, et pour un total, les équipages représentent 105 755 hommes. C'est gigantesque. Et du côté de l'Angleterre, 828 vaisseaux, 13 974 canons et un total d'hommes de 123 020. Bon, les chiffres, sans doute, seraient à discuter, mais ça donne un peu...
100 000 hommes de chaque côté.
C'est gigantesque.
Oui, et donc effectivement, cette guerre américaine, tout de même, qui n'est pas restée comme une guerre importante du XVIIIe siècle dans notre histoire française, sinon par l'engagement de Rochambeau et de Lafayette et le souvenir que chacun en a gardé dans les livres d'histoire, cette guerre tout de même est une guerre qui va peser sur le pays de façon considérable dans une époque où déjà les finances royales sont dans un assez mauvais état, Lucien Belli.
Indéniablement, le poids sur les finances royales a été considérable. Alors, parfois on disait que ça avait été l'une des causes de la Révolution, c'est-à-dire que la France n'avait jamais pu se remettre de ce conflit. Mais enfin, aujourd'hui, ça peut être discuté. Mais en tout cas, il a fallu ensuite récupérer. Et je crois que la place dans la mémoire collective est sans doute modeste parce que c'était un conflit hors d'Europe et... aussi parce que les conséquences de la paix n'ont pas transformé la vie du pays. Donc d'une certaine manière, c'est une guerre qui a coûté cher, mais en faveur des Américains. Et aussi, bizarrement, et ça le chancelier autrichien Konitz le souligne avec ironie en disant que les Français ont payé pour le roi d'Espagne, qui a été un très mauvais allié.
Ce
qui est très étonnant, c'est qu'il y a eu, on voit plus de 100 000 hommes engagés, il y a eu finalement assez peu de morts français. On a parlé pendant longtemps de 100 ou 200 morts avant que dans les années 30, un historien américain réévalue ce nombre de victimes.
2400 morts à la bataille, ça fait déjà beaucoup. Hein. Les capitaines étaient très attentifs à conserver les marins sur un bateau, car un mort, ça n'est pas remplacé. Bon, les chiffres des officiers sont bien connus, les chiffres des marins sont moins.
France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Tout de même, il y a des représentations qui permettent de se faire une idée de ce qu'ont été ces batailles, surtout ces batailles navales, Valérie Bajou. Nous sommes arrivés au mi-temps de cette exposition ici à Versailles autour de l'indépendance américaine. Et les représentations que l'on a ici, ce sont des tableaux qui ont été d'ailleurs commandés par le roi pour pouvoir, d'une certaine façon, glorifier l'action des Français dans cette guerre d'indépendance américaine, mais qui ont des statuts différents, ces tableaux.
Tout à fait. Louis XVI commande 18 batailles navales, 18 représentations, dont 16 sont données à un militaire, un marin, qui est le marquis de Rossel. Et il a chargé de représenter chaque bataille navale en 3 exemplaires. Le premier exemplaire, ce sont les tableaux de l'exposition dont les cadres n'ont pas de cartouches, sont les cadres simples, c'est l'original. Il sert à l'instruction des officiers, c'est-à-dire qu'on demande à l'artiste de représenter la bataille à un moment décisif afin que dans l'instruction des officiers, on puisse donner la disposition des navires français et anglais et indiquer de quelle façon une bataille pouvait se gagner et aller jusqu'à la victoire.
Île de Saint-Domingue, le 22 août 1778. Donc ça, c'est une copie pour le ministre du roi.
Pour le ministre du roi. Les compositions sont toujours très claires parce qu'elles vont servir à un discours didactique. En revanche, la victoire n'est pas toujours aussi décisive qu'on pourrait le penser. Et j'ai eu la chance de pouvoir exposer une version française et une version anglaise du même combat, le combat du Québec, le bateau qui explose, bateau anglais bien sûr, contre la surveillante, bateau qui est à peu près aussi mal en point puisqu'il n'y a plus, de mât sur le pont. Vous avez donc la version française par le marquis de Rossel et vous avez la version anglaise par un peintre anglais qui est beaucoup moins dramatique, beaucoup moins spectaculaire. On a l'impression que le français, en fait, d'instruction, lui, représente un feu d'artifice. Le peintre anglais est beaucoup plus intéressé de montrer tous les marins qui ont dû fuir l'incendie et qui se retrouvent à la mer et qui sont récupérés par les autres marins.
On voit bien qu'il y a un souci aussi de conserver la mémoire exacte des événements et chaque événement est finalement documenté et avec ces tableaux ont une précision très, très, très grande qui montre ce souci-là, me semble-t-il. C'est aussi une fierté d'avoir une marine et de montrer qu'elle était capable de haut fait d'armes.
Valérie Bajou, sur ce point, on va passer justement à la salle voisine, en passant d'ailleurs devant un tableau qui a été prêté par le président Valéry Giscard d'Estaing, en l'occurrence, la collection présidentielle. Comme quoi, il y a aussi des gens qui se souviennent de cette période-là. Et on va arriver évidemment à ce moment très important qui est la bataille de Yorktown. Pourquoi cette bataille est-elle qualifiée de bataille décisive, Lucien Belli?
Nous l'avons vu tout à l'heure, la première campagne maritime de l'amiral d'Estaing n'avait pas apporté de décision. Donc la France s'est tournée vers l'Espagne avec l'idée que la flotte française et la flotte espagnole unies pourraient résister éventuellement à la flotte anglaise. Donc c'est finalement une nouvelle étape en 1779, et à ce moment-là, l'armée américaine n'est pas en très bonne situation. Il faut, en quelque sorte, la sauver. C'est très risqué. Donc, à partir de 1780, il y a à la fois une intervention maritime de la France et de l'Espagne, mais aussi l'envoi d'un corps expéditionnaire de Rochambeau, donc une armée de métiers, cette fois-ci française. Donc, on pense que cette aide maritime et cette aide terrestre pourront sauver l'armée de Washington. Avec l'idée, finalement, d'une combinaison terre-mer. Et c'est ce qui se réalise en 1781. Passons le détail, mais ce sont des opérations extrêmement complexes en Amérique. Et un général anglais, Cornwallis, se trouve en Virginie, près de la baie de la Chesapeake. Les Français arrivent, bloquent la baie de la Chesapeake, c'est l'amiral de Grasse, avec la flotte française, pour empêcher finalement une aide anglaise. Et on commence le siège de cette petite ville de Yorktown. Et donc vous le voyez, il y a eu à la fois une intervention terrestre de Lafayette, celui qui représente la noblesse française, tout enthousiaste, et puis bien sûr de Washington et de Rochambeau. Donc tout le monde est là, et ça commence par une première bataille, c'est-à-dire que l'amiral de Grasse lui-même est attaqué par les Anglais, il réussit à les repousser, donc on bloque vraiment la Chesapeake, donc les Anglais n'ont plus d'aide possible, le siège se fait, et il y a la capitulation du général Cornwallis, et c'est finalement un événement important de la guerre d'indépendance.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, Valérie Bajou, nous nous trouvons devant deux tableaux qui racontent cette bataille de Yorktown. Le premier s'appelle le siège de la bataille de Yorktown, le second la capitulation. Et on se rapproche entre le premier et le second du lieu des événements. Est-ce que ces tableaux nous racontent la stratégie du comte de Rochambeau, qui est le grand vainqueur de cette bataille?
Alors, je crois, oui, puisque l'auteur de ces deux gouaches sur vélin, Nicolas van Blarenberg, est d'une famille de peintres militaires avec une tradition de pouvoir réaliser un paysage avec un moment décisif de la victoire à partir de cartes dressées par des ingénieurs du génie, en l'occurrence certainement Alexandre Berthier, dont on a les archives et les cartes. Si l'on regarde la carte de la bataille qui est sur un autre mur et qui a été dessinée au moment du siège, avec des couleurs différentes pour les armées américaines, anglaises et puis les deux armées françaises de Rochambeau et de Lafayette, on retrouve chez Van Blarenberg exactement la même disposition, c'est-à-dire dans les lointains, la ville de Yorktown entourée de remparts, la flotte qui se trouve sur la rivière à l'arrière-plan. Et puis, au premier plan, on est certainement du côté de Lafayette et de Washington, l'armée de Rochambeau étant plus sur la gauche. Les Français ont utilisé les redoutes qui avaient été construites par les Anglais pour se cacher. Il y a eu un véritable travail d'ingénieur pour établir ce siège et finalement intervient la capitulation.
Alors, on pourrait penser, si on avance dans cette exposition vers la conclusion de cette exposition ici à Versailles, que cette bataille de Yorktown en 1781 signe la fin, pourrait-on dire, des hostilités et que voilà, les Britanniques vont devoir abandonner la partie d'une certaine façon. Mais ce que vous montrez dans cette exposition, Valérie Bajou, c'est qu'il y aura toujours, en 1782 et encore un peu plus tard, une continuation de cette guerre d'indépendance américaine dans d'autres espaces géographiques.
La guerre a continué dans les Antilles en 1782 et Versailles a exposé deux tableaux copiés d'après Rossel de Cercy ou de Rossel qui représentent ces derniers combats de 1782, et cette fois-ci on a choisi les versions qui avaient appartenu à l'amiral qui avait eu toute la gloire de la victoire.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, Valérie Bajou, sur ces murs consacrés à la bataille de Saintes, qui a été donc perdue par le comte de Grasse, qui avait été le grand vainqueur de Chesapeake, on n'a pas de représentation française de la bataille de Saintes, puisque c'est une défaite cuisante.
Yes.
Mais parmi les représentations anglaises, au milieu des tableaux, on a des caricatures qui montrent sans doute ce qu'était la communication à l'époque pour le peuple de ces batailles.
La bataille des Saintes est représentée par une gravure allemande, mais la reddition de l'amiral de Grasse est représentée par un caricaturiste anglais, James Gilray. Il y a eu vraiment une guerre de l'estampe et des mots et des légendes, puisque parfois la même image peut dire deux choses différentes. Donc ici, on a l'amiral de Grasse, gigantesque, rendant son épée à l'amiral Rodney, tout petit, et c'est une estampe par un Anglais. Et puis la deuxième caricature montre l'amiral Rodney prosterné devant son roi George III, qui introduit l'amiral de Grasse, qui reste très raide et refuse de se prosterner.
Lucien Belli.
L'étonnant, c'est que, en effet, la capitulation de Yorktown dans notre récit historique apparaît comme un événement majeur et pour tous ceux qui, en Amérique en particulier, commémorent les événements, ça reste la date essentielle. Mais d'une certaine manière, si on regarde bien les choses, l'armée anglaise n'était pas complètement battue et il y avait encore possibilité de continuer la guerre et l'Angleterre l'a continuée. Et progressivement, pour les Français, ce qui est apparu, c'est qu'il y avait beaucoup de risques, d'abord dans les Antilles, en effet, comme vous l'avez rappelé, c'est que la guerre continuait ailleurs. Et pour la diplomatie française, progressivement, les Français ont eu peur. Ils avaient eu du mal à entrer dans la guerre, mais ils ont vu le moment où les Américains allaient se réconcilier avec les Anglais. Brusquement, parce qu'il faut bien le dire, nous nous aimons beaucoup, hein, les Américains et les Français, mais les Américains de ce moment-là n'aimaient pas beaucoup les Français. Franklin avait été bien reçu, mais beaucoup de ces Américains avaient fait la guerre aux Français. Ils étaient de culture britannique, ils considéraient les Français comme des esclaves de leur roi, où la presse n'était pas libre. Tout le système français les hérissait. Donc, d'une certaine manière, quand ils ont commencé à voir qu'ils étaient proches de l'indépendance, certains des négociateurs, même à Paris, étaient tout à fait proches de faire une paix séparée. Et d'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé. Et Vergène a vu le moment où tout cet immense investissement de la France, de l'Espagne, allait aboutir à une paix séparée entre Anglais et Américains, ce qui aurait été déplorable, d'une certaine manière.
Alors, si on avance dans cette exposition, et là, on s'achemine véritablement vers la fin, il y a un tableau très, très étrange qui marque le traité de Paris, un tableau qui est signé d'après Benjamin West, qui date d'après 1820. Il ressemblerait presque à des sortes d'esquisses de Toulouse-Lautrec, où une partie du tableau est peint et l'autre partie est entièrement vierge de peinture. C'est quoi ce tableau qui représente certains des signataires justement de ce traité de Paris qui met fin au conflit en 1782, Valérie Bajoux?
Alors, ce tableau représente les préliminaires du traité de Paris, signé en fin 1782, et qui a le même texte que le traité de 1783. À l'arrière-plan, on devine l'actuelle place de la Concorde, et puis sont représentés de gauche à droite John Jay, Samuel Adams, Benjamin Franklin, son secrétaire, et Lawrence. Et il y a un grand vide à droite de ce tableau, puisque les Anglais ont refusé de poser pour cette célébration du traité. Je voudrais ajouter que ce tableau est la version qui appartient au département d'État, donc au ministère des Affaires étrangères, à Washington.
Lucien Belli, effectivement, ça n'était pas évident pour les Anglais d'accepter une telle défaite qui les privait tout de même d'un territoire qui les intéressait au premier chef.
C'est intéressant, mais en même temps, je pense qu'assez vite, les Anglais ont accepté l'idée que c'était fini et que d'une certaine manière, les bonnes relations reprendraient très rapidement. Et c'était une intuition très forte. Les Français pensaient que les Américains leur seraient très reconnaissants, qu'ils ouvriraient leurs ports. Nous l'avons vu tout à l'heure, liberté des mers, qu'ils... Ce que le gouvernement français espérait, c'est que les Américains, des marchés nouveaux pour les Français. Or, en réalité, les habitudes sont restées ce qu'elles étaient, donc on a continué, sous une autre forme, à avoir d'excellentes relations entre Anglais et Américains. Et donc ça a été quand même, il faut bien dire, une sorte de déception. Bien sûr, l'honneur national, c'est ce qu'on l'a vu, le patriotisme, l'idéologie nationale, les sentiments, ça joue. Et donc, pour la nation française, c'était une belle satisfaction.
Et le retour sur investissement
a été sans doute moins important. Il faudrait regarder ça de plus près. Mais alors, on pourrait dire que les Américains nous ont beaucoup remboursé. Ensuite, ils sont venus au XXe siècle très, très gentiment.
Au nom de Rochambeau et de Lafayette.
Ah, oui, Lafayette. Voilà, donc on peut dire que ça a été un investissement merveilleux. Ils nous ont gardé la liberté aussi. Donc ça, c'est important, cette solidarité. Ce n'est pas mince hein, puisque d'ailleurs c'est un peu l'idée que ce sont deux nations qui ont dialogué. Mais dans ce tableau, on voit bien aussi que la difficulté, c'est que d'une certaine façon, c'est la métropole et les colonisés, les colons, donc une autre population. Et là, brusquement, ils viennent à égalité. Et c'est quand même très difficile à accepter cette nouvelle égalité entre le royaume de Grande-Bretagne et cette république. Alors également, je le signale, pour ces hommes du XVIIIe siècle, l'idée que ce soit, tout à l'heure Madame Bajoux disait, des provinces unies. Même Benjamin Franklin avait peine à imaginer que ce serait une nation. C'était tellement différent. Le monde, voyez, entre les grands planteurs de Virginie et les bourgeois du Massachusetts, il y a un monde. C'est pas du tout la même société. Ce sont pas les mêmes hommes. Donc, l'idée que ça formerait un jour un État vraiment uni, ça paraissait difficile. Puis, en plus, une république. Une république, dans l'esprit du XVIIIe siècle, c'est un État fragile et faible. Donc, d'une certaine manière, on disait, une république, ça ne gênera personne. Bon, vous voyez, on pensait que ce serait une petite puissance sans intérêt, que l'on dominerait facilement.
Mais tant, Marcel Lépiné.
Oui, juste là, nous avançons un peu. Nous nous trouvons maintenant devant une vitrine qui présente trois versions de l'insigne des Cincinnati, et à côté d'une étude pour l'insigne des Cincinnati qui est de Pierre-Charles L'Enfant, dont on n'a pas parlé, qui était un Français qui est parti très tôt aux États-Unis avec Lafayette, on peut dire très jeune, qui a eu un destin extraordinaire. On ne peut pas raconter tout ça aujourd'hui. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que cette société des Cincinnati ?
La société des Cincinnati a été créée dès la fin de la guerre, après Yorktown, car les soldats américains ne recevaient pratiquement pas de soldes. Et elle a été créée au départ comme une société d'entraide. Elle est devenue, de fait, un ordre militaire. Il y a eu autant de sociétés de Cincinnati créées que de nouveaux États, donc 13 sociétés américaines et une société française. L'ordre a été décerné aux plus hauts officiers et non pas à tous les officiers, car sinon il y aurait eu plus de Cincinnati français que de Cincinnati américains. Et une demande a été faite à Louis XVI pour que les officiers français puissent porter cet ordre étranger.
Peut-être décrire cet insigne des Cincinnati, il y a l'aigle.
Alors, l'insigne représente l'aigle, et en fait c'est un insigne à double face, et au cœur de l'aigle, disons, un médaillon de chaque côté représente d'une part Cincinnatus qu'on vient chercher alors qu'il est en train de s'occuper de sa charrue, et d'autre part son arrivée à Rome pour prendre les rênes de Rome.
Oui, parce que effectivement, ce Cincinnatus, c'est celui qui s'embrigade, pourrait-on dire, pour sauver sa ville de Rome dans la légende romaine. Et effectivement, c'est aussi celui qui retourne à sa charrue une fois que la guerre est terminée. Donc il y a toute une dimension civique, pourrait-on dire, à cette figure de Cincinnatus. Et c'est d'autant plus étrange qu'aujourd'hui, l'ordre des Cincinnati, Lucien Belli, est devenu une sorte d'ordre aristocratique, puisqu'il y a toute une dimension presque familiale à un ordre qui se voulait un ordre extrêmement civique, extrêmement démocratique, extrêmement égalitaire.
Ah, ça, c'est un jugement que je vous laisse. Je n'interviendrai pas là-dessus. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que la figure même de Washington est un peu la figure d'un Cincinnatus. C'est un homme qui est un officier qui a surgi finalement de sa patrie. La patrie, la nation qui se défend elle-même, en quelque sorte, dans une vision à la fois nouvelle et archaïque. C'est à la fois la vision médiévale, pratiquement, mais c'est aussi l'idée d'une nation en armes. Et Washington va aussi se retirer. C'est aussi un homme qui sera à la fois l'incarnation même de cette nation, qui reste l'incarnation de cette nation, mais qui sait aussi mettre un terme en quelque sorte à son action, qui prendra une sorte de se replier et entretenir aussi cette amitié avec Lafayette.
Oui, ce point-là est extrêmement important, j'imagine, dans l'imaginaire américain, qui est aussi présent dans ces premiers temps de l'indépendance américaine, Valérie Bajoux, c'est-à-dire effectivement l'idée qu'on puisse laisser le pouvoir à des successeurs qui seront les pères de l'indépendance américaine pendant les premières générations, mais permettre d'une certaine façon à ce que ce pouvoir ne soit pas héréditaire. Et cette fin d'exposition nous conduit dans la galerie des batailles, qui est donc une conception, pourrait-on dire, du 19e siècle, et là le 19e siècle de Louis-Philippe, qui a voulu représenter les grandes batailles qui ont fait la France, la nation française, dont il se sent le garant, et ici même dans ce qu'il a voulu aussi comme un musée de toutes les gloires de la France, lorsqu'il est donc souverain de ce royaume de France. Et ici, on se trouve devant le plus grand tableau de cette exposition, à la hauteur de tous les autres tableaux de cette galerie des batailles, qui représente le siège de Yorktown, mais c'est une conception plus tardive que celle dont on a parlé tout à l'heure, puisque ça date des années 1830.
Tout à fait. Donc la galerie des batailles est inaugurée par Louis-Philippe en 1837 avec une série de tableaux sur les victoires françaises depuis Clovis jusqu'à Napoléon. Et comme seul représentant, je dirais, du règne de Louis XVI, il y a ce tableau sur la bataille de Yorktown, ou plutôt l'avant-bataille de Yorktown, que Louis-Philippe commande à Auguste Coudert, un artiste officiel qui a travaillé pour Versailles sous la monarchie de Juillet. Alors, comme on est très loin de l'événement, ce qui est représenté ne correspond pas du tout ni à la bataille ni à la ville de Yorktown, mais une mise en scène avec les principaux personnages tels qu'en tout cas on les concevait en 1837. Donc devant la tente de Washington, bien sûr le plus grand personnage, George Washington, qui a d'un côté Rochambeau qui pointe son doigt vers la ville de Yorktown, et derrière l'épaule de Washington, le jeune Lafayette à l'entrée même de la tente. Mais il y a parmi les officiers qui regardent la carte de la ville de Yorktown, l'amiral de Grasse qui est penché en avant, qui a un grand chapeau noir, que l'on a placé ici évidemment parce qu'il est important pour la victoire de Yorktown, mais qui n'a jamais dû mettre les pieds aux États-Unis car il est resté en permanence sur le bateau.
C'est aussi la façon pour le royaume de France de réconcilier ceux qui ont fait la révolution et ceux qui ne l'ont pas faite, et donc tenter de faire ce qu'il a voulu être d'une certaine façon, une sorte de, entre guillemets, de roi républicain, Lucien Belli.
Oui, d'autant plus que Louis-Philippe avait du mérite parce que son père avait été mêlé à tous ces événements et n'avait pas été très très brillant. Certainement, ce tableau lui parlait, d'autant plus que le régime qu'il a mis en place voulait un régime beaucoup plus libéral que la monarchie ancienne. Donc, cette idée est très belle, c'est la préparation commune, cette solidarité entre les deux nations, c'est bien une sorte de résumé de ce lien si singulier qui s'est créé entre une jeune nation, une nation qui venait de naître, et un très vieux royaume qui avait su s'engager, non sans difficulté, mais avec prudence et avec détermination dans une aventure qui n'était pas simple.
Merci à vous deux, en tous les cas, de nous avoir guidés. Merci à vous, Valérie Bajou, donc, pour cette exposition qui dure ici jusqu'au 2 octobre, donc Versailles et l'indépendance américaine, que l'on peut trouver donc dans ce même château de Versailles. Merci à vous, Lucien Belli. Je rappelle que vous Merci. Êtes spécialiste du 17e et 18e siècle, et que vous avez participé au très beau catalogue qui accompagne donc cette exposition Versailles et l'indépendance américaine, qui est coédité par Gourcuff Gradenigo et Château de Versailles. Merci encore à tous les deux. Voilà pour ce troisième épisode de notre série L'Amérique et nous. Demain, nous continuerons et terminons cette série en nous intéressant au regard français porté sur l'Ouest américain.